18 juin.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Journée spéciale De Gaulle 2020 sur France Inter.
Et il est 8h23, c'est donc, vous venez de l'entendre, une journée spéciale que vous propose aujourd'hui France Inter à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 40 prononcé par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC. De nombreux rendez-vous vous sont proposés toute la journée, dont ce grand entretien de la matinale avec Léa Salamé. Nous recevons aujourd'hui un historien, grand spécialiste de la France du 20e siècle, anglais, auteur d'une biographie monumental, intitulé « De Gaulle, une certaine idée de la France », publié aux éditions du Seuil. Biographie qui vient de recevoir le prix spécial du jury du livre de géopolitique. Vous pourrez intervenir dans une dizaine de minutes. Question au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Julian Jackson, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro. Et
merci de m'avoir invité.
Nous allons parler du gaullisme en général, de la 5e République sans doute, du rôle et du poids de la figure politique du général de Gaulle dans la vie politique française. Mais restons d'abord sur l'appel du 18 juin 40, une voix venue de Londres, comme vous l'écrivez. Cet appel, ce sont les toutes premières pages de la biographie que vous consacrez à de Gaulle. Vous ne partez pas tout de suite de l'enfance, des années de formation. Non, vous partez de là. Londres, la BBC. Dites-nous pour quelle raison. Est-ce parce que l'appel du 18 juin est la clé de voûte de la vie de Gaulle, l'événement fondateur?
En fait, j'avais oublié que j'avais commencé avec l'appel du 18 juin. Parce que, mais pour moi, oui, c'est le moment, c'est un peu banal de le dire, mais où le général de Gaulle entre en histoire. Et je voulais, en fait, et où il commence à devenir, si vous voulez, ce personnage légendaire, etc. Et donc, en fait, le défi pour le biographe, c'est de jouer entre ces deux choses, entre un homme qui a un passé, qui avait un passé, il avait 50 ans, 40, donc il avait tout un passé. Et donc, je crois que je voulais commencer avec le moment où il est en train de devenir la légende dont tout le monde connaît, et puis après ça me donne la possibilité d'aller de repartir en arrière. En fait. Donc il me semble plutôt logique de commencer comme ça.
Cet appel, peu de Français l'ont entendu, ça on le sait, et la BBC à l'époque ne l'a pas jugé assez important pour l'enregistrer, donc on n'a pas de trace de cet appel du 18 juin. Mais vous dites que le 18 juin formule, je vous cite, un diagnostic, une prédiction, un appel et un message, les quatre. Dites-nous en quelques mots, quel diagnostic, quelle prédiction, quel appel et quel message?
C'est un appel à l'espoir, que tout n'est pas perdu. Ça, c'est, dans un sens, l'appel et le message, c'est un peu la même chose. C'est que ne vous désespérez pas de la France. Nous avons été vaincus dans une bataille, mais la bataille n'est pas la fin. Et donc, le diagnostic, c'est pourquoi est-ce qu'on a été battu? Pour des raisons, pour de Gaulle, militaire. Et vous direz que c'est évident qu'on est battu pour des raisons militaires, mais c'était pas évident. Pour ce qui devient le régime de Vichy, Vichy n'existe pas encore. La France a été battue parce que la France était décadente, parce que la France, il fallait se refaire, etc. Pour de Gaulle, les raisons étaient pas que la France était décadente, mais simplement pour des raisons militaires. Ça, c'est le diagnostic. Et puis la prophétie, si vous voulez, c'est que cette guerre, cette bataille perdue, va devenir une guerre mondiale. Et c'est quand même... Et entre De Gaulle, il y a toujours cette tension, pas contradiction, entre un homme de sentiments qui veut que les gens croient quelque chose, mais qui donne toujours les raisons.
Et la passion et la raison.
La passion et la raison. Le sentiment et la raison. Oui, et ça l'habite tout le temps. Et donc, il dit pas simplement il faut pas désespérer, mais il dit pourquoi il faut pas désespérer. Des raisons. Et les raisons, c'est que ça va devenir une guerre mondiale. Il parle de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique, l'Empire française, et de l'apport et de l'appui que pourraient apporter les Américains, l'économie américaine. Et on sait, en fait, en privé, mais il dit ça pendant l'appel, qu'il pensait déjà à la possibilité, il pensait déjà qu'un jour l'Union soviétique viendrait dans la guerre. Et donc, c'est deux choses, en fait. C'est à la fois espoir, mais des raisons pour espérer. Et pour moi, tout de Gaulle est dans cette tension, et dans cet appel, mais avec ces deux côtés du personnage, si vous voulez.
Beaucoup, Julian Jackson, doutait du républicanisme de Gaulle. Certains le prenaient pour un fasciste ou un dictateur en puissance. Même Jean Moulin, dites-vous, quand il arrive à Londres, se pose la question, de Gaulle est-il républicain ? Parlez-nous de cet aspect-là, c'est quand même un aspect majeur, une question majeure. Est-il républicain ?
Mais la question, c'est la million dollar question, comme disent les Américains. Et ça prendrait peut-être des heures et des heures. J'ai pas des heures, je sais bien.
Non, des minutes.
Quelques minutes. Et donc, pour moi, je dirais qu'en fait, il faut savoir que dans les premiers discours, messages de Gaulle de Londres, jusqu'en novembre 41, il ne parle pas de la République. Ça ne veut pas dire qu'il est pas républicain ou qu'il est anti-républicain, mais il sait que pour beaucoup de Français, la République est discréditée à cause de la défaite, etc. Et donc, il veut pas se mettre dans un camp ou dans l'autre. Moi, je dirais que de Gaulle, qu'il était plutôt a-républicain. Je dis pas anti-républicain, pas républicain.
Ni pour ni contre.
C'est-à-dire, il avait pas la République dans ses tripes comme les républicains de la Troisième République. Mais il acceptait la République comme une nécessité.
Il y a deux personnes dans votre biographie, les relations de De Gaulle avec deux personnes qui sont absolument fascinantes. Je voudrais que vous en parliez l'une et l'autre. Winston Churchill d'abord, relation particulière, faite de suspicion et de confiance. Et puis ensuite, avec le maréchal Pétain.
Churchill, en fait... En tant qu'anglais, je peux dire que sans Churchill, on n'aurait pas eu de Gaulle. C'est un peu provocateur, peut-être.
Vous avez le droit.
Ouais, j'ai le droit, merci. C'est-à-dire que si de Gaulle, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de force personnalité, etc. Mais s'il n'a pas eu le micro du BBC, c'était son arme pendant les 4 ans. Churchill a fait ça par c'était pas un coup de tête, mais c'était une espèce d'impulsivité, c'était un côté romantique, et il voyait que ce personnage, il voyait un peu dans la passion que ce personnage avait pour l'histoire de la France, quelque chose qui était le reflet de la passion que Churchill avait de sa propre histoire, de notre propre histoire. Mais après, le problème, j'ai dit dans le livre, encore un peu provocateur, que Churchill était en sens le Frankenstein du monstre que devient De Gaulle. Ce que je veux dire par ça, c'est que Churchill n'avait pas compris à quel point le micro du BBC donnait à De Gaulle la possibilité de s'émanciper de cette dépendance des Britanniques. Et n'importe qui, même quelqu'un qui était moins fier de De Gaulle, aurait trouvé difficile à vivre cette dépendance totale des Britanniques. Et donc, mais...
Sinon, il ne lui aurait pas permis.
Non,
S'il l'avait senti, il ne lui aurait pas permis d'aller parler à la BBC.
Je crois qu'il ne savait pas exactement ce qui allait arriver. Il pensait beaucoup de choses, mais et c'est quand même intéressant pour la raison pour laquelle, par exemple, Jean Monnet a dit qu'il n'allait pas se joindre à De Gaulle et il va aux États-Unis. Il dit pourquoi vous risquez de devenir dépendant des Britanniques.
Alors, Pétain, parce que là, tout à l'heure, je le raconte aux éditeurs, dans les couloirs, vous avez longuement parlé avec Bruno Le Maire, qui a lu votre biographie, qui a adoré votre biographie, et il nous a cité nommément les choses, donc il l'a vraiment lu. Il a été marqué par l'anecdote sur la mort de Pétain.
Oui.
Racontez ça.
Je vais raconter ça en une minute, mais je dirais simplement qu'il faut pas oublier que les deux carrières de Pétain et de Gaulle étaient entremêlées dans les entre-deux-guerres. Dans un sens, Pétain, il est le premier patron, si vous voulez, de Gaulle. Et après, il s'émancipe de Pétain. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Il est la seule personnalité importante en 40 qui ne croit plus au mythe de Pétain. Il s'est libéré intellectuellement de Pétain. Et ça, c'est très important. C'était pas le cas de la plupart des résistants au début, des grands résistants comme Henri Frenay, croyaient au Pétain au début. Mais De Gaulle, et même des gens comme Léon Blum, ils croyaient Daladier, Paul Reynaud, mais De Gaulle, non. Donc, il s'est émancipé parce qu'il le connaissait. Il avait travaillé avec lui. Mais il était toujours quand même, et il appelait la perle la défaite. Il était vraiment féroce contre Pétain pendant la guerre, mais...
Le jour de sa mort, en 52.
Le jour de sa mort, oui.
Pompidou
mais,
vient
oui,
lui dire Pétain
oui.
est mort. Qu'est-ce qu'il répond?
Et De Gaulle répond, le maréchal Pétain, il le corrige et il n'est pas content parce que il veut, parce qu'il est sensible à toute la carrière de Pétain. Et il n'accepte pas que Pompidou dise avec un certain mépris Pétain. Et Pompidou qui est quelque chose aussi comme maintenant toute cette histoire s'est terminée. Et De Gaulle répond non, un grand drame national, ça vient de commencer. Il avait tout à fait raison. Ça continue. C'est le drame de Vichy.
Comment définiriez-vous, Julian Jackson, le gaullisme? Vous citez un commentateur de Gaulle qui parle de la vacuité idéologique du gaullisme, une posture et non une doctrine, une attitude et non un ensemble cohérent de dogmes, un style sans beaucoup de substance. C'est difficile à lire et à admettre. Expliquez-nous, la critique est-elle justifiée?
Je crois que De Gaulle n'aimait pas le mot gaullisme. Souvent, il le mettait lui-même entre guillemets. Il ne voulait pas être gaulliste. Il acceptait, en fait, parce que les gens parlaient de gaullisme. Oui. Mais pour De Gaulle voulait... Il était quelqu'un qui était très sensible aux circonstances. Il avait une image de ce que devrait être un chef. Et le mot chef n'est pas très à la mode. On parle de chef d'État, mais le mot chef a un côté un peu autoritaire pour nous. Mais pour De Gaulle, l'important c'était de ne pas être figé dans quelques... Il avait quelques idées maîtresses comme l'importance de l'État, de l'indépendance, du rang de la France, etc. Mais ce sont des idées très très générales. Et donc, il avait une capacité de s'adapter aux situations.
Être chef, c'est être mobile.
C'est la mobilité, la détestation d'être figé est quelque chose d'être... est une obsession de toute la vie. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été un prisonnier de guerre. Il a essayé de s'échapper 4-5 fois, mais il a pas réussi. Et je crois qu'il était hanté par cette idée qu'il était confiné. Mmh. Le mot confiné est très à la mode. Et De Gaulle ne voulait pas être confiné. Il ne voulait pas être figé. Et donc, cette adaptabilité, c'est quelque chose qui vient d'un philosophe français, Bergson. Mmh. Et De Gaulle, il est toujours en mouvement. Et donc, c'est pour ça que je crois que le gaullisme, c'est peut-être un style, une forme d'action, mais il ne faut pas de donner trop de contenu, parce que ça serait en fait contre, à mon avis, sa conception de l'action.
Vous dites qu'il y a des admirateurs de Gaulle aussi bien chez Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain, que chez Oussama Ben Laden. Le mythe de Gaulle, aujourd'hui en France, c'est bien simple. Tout le monde est gaulliste. Sur tout l'échiquier politique. Il n'y a plus un bémol. Il n'y a plus une nuance de Macron à Mélenchon en passant par Marine Le Pen. On est tous absolument gaullistes. Tout le monde. Alors, deux choses. D'abord, comment vous l'expliquez? Et est-ce qu'il aurait aimé ça, le général de Gaulle? Et puis, la deuxième chose, c'est, vous racontez très bien qu'il avait prédit son mythe. La veille de démissionner, vous racontez qu'il raconte à un de ses ministres, il dit à un de ses ministres, en 69, il lui dit, ah oui, les Français ne veulent plus que de Gaulle reste, mais le mythe. Vous allez voir la croissance du mythe de Gaulle d'ici 30 ans. Il l'avait prédit.
Oui. Non, il l'avait prédit. Mais non, vous avez tout à fait raison. Maintenant, mais ça ne veut plus rien dire que tout le monde se revendique de Gaulle.
Mais tout le monde le dit encore.
Oui, non, mais pour je suis historien et je ne suis pas quelqu'un qui pourrait dire ce que de Gaulle dirait de n'importe quoi aujourd'hui. Mais quand je vois, par exemple, vous avez dit le Rassemblement National.
Marine Le Pen
qui va à l'île de Sein, Marine Le Pen qui a écrit ce long article sur De Gaulle. Mais n'oublions pas qu'il y a, et je sais que Marine Le Pen n'est pas son père, peut-être évolué. Elle vient d'une famille politique qui a été foncièrement anti-gaulliste. Mais il y a plusieurs élus Front National comme Robert Ménard à Béziers, il y a un autre à Beaucaire, qui n'acceptent pas l'héritage de la guerre, de ce que De Gaulle a fait en Algérie. Mm. Ils ont débaptisé des rues, etc. Donc je trouve quand même que il y a une certaine Hypocrisie, mais c'est tellement facile. Déjà, Florian Philippot allait à Colomber les deux églises parce que, pour lui, de Gaulle était le grand anti-européen. Mais il n'est pas anti-européen. C'est de Gaulle, en 58, qui a accepté le traité de Rome, même s'il était sceptique avant, il a accepté. Donc, tout le monde veut tirer de Gaulle vers lui. Ça ne veut rien, ça ne veut plus rien dire, strictement. Et ça me, j'avoue que ça me désole. Pourquoi
ça vous désole?
Parce que, il est évacué de tout épaisseur historique. On crée quelque chose qui flotte, qui n'est pas de Gaulle. Et moi, je suis une historien, je m'intéresse à la vérité. Mais le mythe, pourquoi le mythe? Pourquoi cette obsession? Je sais pas. On a besoin d'un psychologue de l'état des Français. Mais pour moi, je crois qu'il y a un peu de nostalgie pour une période où la France comptait dans le monde. Ouais. Et je crois que quand on pense à de Gaulle, on pense à 40, bien entendu, qui est un grand moment de l'histoire de France, et je dis à la fin de mon livre qu'il a sauvé de l'honneur de la France, et j'y crois profondément. Mais aussi, il y a une certaine nostalgie pour la France des années 60, et quand on pense à De Gaulle, on pense à Brigitte Bardot, on pense à Jean-Paul Sartre, on pense à la Caravelle, on pense à
cette France grande puissance.
La grande France puissance, oui. Et je crois qu'il est un peu mêlé à toutes ces idées dans la tête des Français.
Mmh. Vous écrivez qu'aucun homme politique français contemporain n'a plus ouvertement recherché son inspiration dans la figure du général qu'Emmanuel Macron. Sa photo officielle, dites-vous, le présente debout devant un bureau sur lequel un livre est ouvert, Les Mémoires de guerre du général de Gaulle, dans l'édition de la Pléiade. Si ça n'a aucun sens, dites-vous, à l'instant d'être gaulliste aujourd'hui ou de s'en revendiquer, comment analysez-vous cet aspect-là d'Emmanuel Macron? Que va-t-il chercher chez de Gaulle?
J'étais fasciné du fait que sa photo officielle, il est devant les mémoires de guerre. Et j'avais essayé d'agrandir la photo pour voir sur quelle page c'était ouvert. Mais j'ai pas réussi. J'aimerais bien écrire à l'Élysée un jour. Est-ce que vous pouvez dire sur quelle page? Est-ce que c'était n'importe quelle page au hasard ou est-ce qu'ils ont choisi? C'est pas spécial, je sais pas. Et je crois que le président Macron, par son expérience, avec François Hollande, ça lui a fait repenser au penser, parce qu'il me semble que c'est quelqu'un d'assez cérébral, comment être président dans ce système qui est très bizarre. Parce qu'il faut dire que la Ve République, c'était peut-être... je sais pas à quel point c'est adapté au problème de la France aujourd'hui. Ce conflit qui est intégral, qui existe chaque fois avec tous les présidents, entre le Premier ministre et le président. Mais je crois que Macron a vu que le système ne permettait pas un président normal. Mmh. Et quand il parlait de la verticalité et toutes ces choses-là, je crois qu'en fait, c'était une réflexion sur... Il n'avait pas créé le système. Et sans ce système, Macron n'aurait pas pu venir de nulle part. Parce que l'élection présidentielle à suffrage universel, qui a été inventée par De Gaulle en 62, donne la possibilité de quelqu'un sans parti, parce qu'il n'avait pas de parti, Macron, de venir de nulle part. Parce que De Gaulle n'avait pas de parti en 58. Mmh. Donc, je crois qu'il a pensé la Cinquième République, mais je crois qu'il les écueils en fait de l'exercice solitaire du pouvoir, si vous voulez, en causé des problèmes pour De Gaulle en 68, pour le président Macron avec les gilets jaunes.
On file au standard de France Inter où nous attend Hugues. Bonjour Hugues et bienvenue. Et
bonjour,
on vous écoute.
Oui, je voudrais d'abord me présenter parce que je vais jouer carte sur table. Je suis issu d'une famille de gaullistes historiques de 40, qui étaient peu nombreux. Ma mère a fait partie du groupe du Musée de l'Homme. Donc, je voudrais poser la question à M. Jackson sur une phrase qu'il a prononcée dans le journal Le Monde et qui voulait indiquer que finalement, le Brexit donnait raison au général de Gaulle après coup. J'avoue que c'est exactement mon opinion, puisque c'est à quoi j'ai pensé en premier quand j'ai appris que l'Angleterre avait voté le Brexit. C'était ma première... sa première pensée qui est venue à l'esprit quand j'ai eu le vote pour
le résultat du vote
de l'Europe, du Royaume-Uni. Donc je voudrais que qu'il explicite sa pensée sur le fait que le Brexit
donne raison au général de Gaulle. On a bien compris, Hugues, je transmets la question à Julian Jackson.
Ouais, je voulais dire, si on relit la conférence de presse où de Gaulle a prononcé son veto en janvier 63, on fera toutes les analyses qui fait des attitudes profondes de notre pays, malheureusement, sont avérées vraies. Il avait d'autres raisons pour le veto, parce qu'il voulait pas troisième puissance pour bousculer le partenariat franco-allemand. Mais malheureusement, je crois qu'il a bien vu, et également notre dépendance, notre relation avec les États-Unis, qui était une des raisons, il voyait notre pays comme le cheval de Troie, si vous voulez, d'une relation privilégiée avec les États-Unis. Donc malheureusement, je crois qu'il avait raison. Mm-hmm. Et malheureusement, en fait, c'est bizarre, il y a beaucoup de Brexitaires dans mon pays qui célèbrent maintenant le souvenir de Gaulle, paradoxalement, à cause de ça.
Et ça vous fait encore plus mal.
Oui, ça me fait très mal.
On a compris. Vous parlez de l'homme. Il y a beaucoup de choses sur l'homme de Gaulle. On apprend des choses sur l'homme de Gaulle. Et c'est les parts d'ombre du général de Gaulle. Le fait qu'il était dur, qu'il était cassant.
Oui.
Racontez-nous, parlez-nous de l'homme qu'il était.
Je crois qu'en fait, c'est toujours un défi pour un biographe de pénétrer derrière la carapace d'un homme d'État. Et dans le cas de Gaulle, c'est doublement difficile parce que, exactement ce que vous avez dit, il n'était pas facile d'aborder. Et moi, je dirais qu'il était vraiment très... J'utiliserais le mot timide. Mais le mot timide, en anglais, ça se traduit par shy. Mm. Et quelquefois, les gens qui sont difficiles, on dit qu'ils sont timides. Et je crois qu'il y avait une sensibilité cachée. Il avait une grande difficulté à exprimer ses émotions. Ça vient
Exactement, oui.
Mais ça vient aussi de sa formation. C'était un homme du 19e siècle, une famille catholique bourgeoise, et où c'était pas normal de montrer ses émotions. Mais aussi, j'ai proposé l'idée que de Gaulle n'était pas forcément toujours très bien dans sa peau. Mm-hmm. Il dit un jour à un de ses collaborateurs, Louis Jox, très important, mm-hmm. il dit, nous les géants, les chaises sont toujours trop basses, on bouscule les tables. Il dit, dans les mémoires de guerre, une phrase qui me frappe pour ce personnage qui ne se livre pas. Il parle de ce moment d'apothéose quand il est sur le Champs-Élysées. Il dit, moi qui n'ai pas une physique qui plaît. Mm-hmm. Ouais. Je trouve ça quand même assez étonnant. Donc je crois qu'il est était mal à l'aise dans son corps, qui ajoute peut-être...
Maladroit.
Oui, une espèce de maladresse.
De malaise.
Un malaise dans les relations avec des gens.
Il nous reste une trentaine de secondes. Daniel, sur l'application de France Inter, écrit la chose suivante. Je suis très ému par ce magnifique témoignage sur De Gaulle, surtout venant d'un Britannique.
Oui, j'ai l'habitude.
Merci en tout cas, Julian Jackson. Merci d'avoir été au micro de France Inter ce matin. Rappelons le titre de cette biographie monumentale, passionnante, De Gaulle, une certaine idée de la France, publiée aux éditions du Seuil.
Robert Paxton, il a écrit sur la quatrième de couve, enfin la biographie que ce géant méritait.
Voilà.
L'hommage de Paxton pour vous.
Oui. Voilà.
Et la biographie compte énormément.
La biographie n'aura donc pas été écrite par un Français. Merci encore, Julian Jackson.